Donc, c'est un partage que je voulais vous faire depuis un petit moment sur les finances, qui devait se faire le 15 mars 2020, figurez-vous. Donc, ça commence à dater. Et devinez ce qui s'est passé. À cette époque-là, on a eu le Covid qui s'est invité parmi nous. Donc, c'est vrai, comme disait Hélo, il y avait une série de finances qui avait été faite sur le sujet. Et justement, j'en fais appel à votre mémoire. Est-ce que vous savez un petit peu ce qui avait été abordé à l'époque ? Hein, ça fait déjà 3 ans. Donc, il y avait trois sujets qui avaient été abordés avant. Moins égale plus, que donner, c'est bien. Et Olivier avait partagé aussi sur l'intérêt d'un budget pour pas que ça parte dans tous les sens et qu'on se retrouve endetté. Et moi, ce matin, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'était le quatrième volet, c'était sur la perspective que demain a de l'importance. Et en revoyant mes notes, en repriant pour ça, le Seigneur est revenu me mettre des choses à cœur. Et c'est drôle parce que ce matin, on en a encore entendu parler. Il a parlé d'humilité. Alors, je vais essayer d'en reparler ce matin aussi, dans ce partage. Reconnaissance et patience. Voilà, donc vous savez que les finances, effectivement, c'est un métier, c'est mon métier aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce dans les métiers de la finance. J'ai été au départ dans la banque et maintenant dans l'assurance. Alors rassurez-vous, hein, je ne vais pas chercher à vous vendre quelque chose aujourd'hui. Mais c'est vrai que je fais ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Et ça n'a pas été évident et simple pour moi de travailler ce sujet parce qu'on peut très vite partir dans tous les sens. Je suis quelqu'un de très bavard et j'ai un timing, donc je vais tout faire pour m'y tenir. En tout cas, voilà, l'idée de ce matin, c'est d'avoir quelques clés utiles et pratiques pour voir, en lien avec les principes bibliques, comment on peut gérer nos finances, comment on peut optimiser ce que Dieu nous a donné. Première chose, c'est un constat. Constat, quand on regarde un peu, il y a deux choses hein, qui se confrontent. On en avait déjà parlé, Olivier l'a rappelé la semaine dernière, le système du monde d'un côté et les choses du royaume de Dieu. Et si on fait un constat, aujourd'hui, on voit bien que par rapport au système du monde, tout est tourné sur soi. Beaucoup d'égocentrisme, société du moi d'abord et tout de suite. La culture de l'instantané, de l'immédiateté, on le voit bien avec les séries. Hein, si je n'ai pas ma série Netflix, si ce n'est pas au bon moment, ben ça ne va pas. Quand on se réunit, nous, en famille, pour regarder un petit film le vendredi soir, le petit plateau repas, tout est prêt, si ça ne marche pas. Ah, c'est terrible. Et puis on voit que c'est compliqué. Il faut des fois, on achète un film et puis il faut vite mettre le petit code. On a 10 secondes. Alors très vite, on se dépêche pour mettre le petit code et si ça ne va pas, hop, il faut à nouveau recommander. Enfin, c'est très très compliqué, ça va très vite. Et c'est ça. On est vraiment dans ce monde où tout va très très vite. On est aussi dans l'ère de la consommation à outrance, du non réfléchi. Alors pour ceux qui me connaissent, ma femme désespère des fois quand je rentre dans un magasin. Moi, c'est clair que dès que c'est un magasin de souvenirs, je ne peux pas m'empêcher, je vois plein de choses, j'ai envie de tout acheter, tout ressortir, c'est terrible. J'en ai encore fait les frayères à grands frais, justement. C'est tellement bien fait, non mais c'est vrai, tu rentres dans le magasin, tu as plein de petits emballages, tout est super bien fait, tu dis ça pour l'apéro, les petits chocolats, les petites cacahuètes, le petit truc, tu as envie de bien faire, tu repars avec tout le magasin, et j'arrive, ma femme m'attendait déjà, j'avais déjà une heure de retard. Donc voilà, ça va très très vite. On est toujours dans cette course effrénée, on rentre dans un magasin, on ressort des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Jonathan, d'ailleurs, avait donné un très beau témoignage par rapport à ça. Tu rentres dans un magasin, tu n'as pas prévu d'acheter, tu ressors avec un truc que tu n'avais même pas prévu, et tu te dis, mais à quoi ça sert? Et c'est vraiment ça, on est vraiment dans cette course effrénée. Donc, quelle ambition, quel objectif poursuis-tu? Emmanuel en avait parlé il y a quelques temps, souvent pour combler un vide, un manque. On va parfois se réfugier beaucoup dans le travail, on va être en suractivité. Et moi, c'est pareil. Combien de fois je me suis trouvé, alors qu'on devait partir en vacances, on avait un rendez-vous, hein, s'il fallait arriver à 17h, et j'y attends chérie, j'ai encore quelques dossiers. Attends mon cœur, il faut que je passe la tondeuse. Et puis je passe dans le jardin et je vois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai, mais pourquoi la lampe a cassé? Et je me mets à la réparer, on devait arriver à 17h, on part, c'est 17h. Mais bon, ça peut être très très vite compliqué. Donc, nouvelle donnée à prendre en note, demain a de l'importance. Dans mon travail, on dit souvent, faire en sorte que demain ressemble à ce que tu as décidé aujourd'hui. Vous aider à préparer l'avenir. Et donc, c'est intéressant de voir les finances avec la perspective du royaume. Comment Dieu veut que j'utilise ça? Alors, pour qui? Ben pour moi, pour ma vie, bien sûr, Dieu veut me bénir, mais pas que. c'est pour ma famille et surtout pour les autres, pour mon appel. Donc il ne s'agit pas de s'inquiéter de demain, puisque Jésus a dit « ne vous inquiétez pas du lendemain », mais d'agir en connaissance de cause pour son royaume et pour sa gloire. Et pour ça, ce matin, j'aimerais vous donner trois principes. Sagesse, reconnaissance et humilité. Et on en a parlé ce matin, Laurence notamment, pendant la Sainte-Seine, humilité. Comprendre les choses, si on va un peu dans le détail, avant d'investir. Que rien n'est impossible sans la grâce de Dieu. Être dans la reconnaissance, apprendre à dire merci, même dans les petites choses. Et que même si tu es bon et doué pour quelque chose, tu as toujours quelque chose à apprendre. Alors je vais vous montrer quelques versets et une parabole qui illustre ce principe de demain a de l'importance. Donc vous pouvez tous prendre vos Bibles ou vos smartphones, pas de pression. Et on va voir déjà plusieurs proverbes. Plusieurs proverbes sur ce premier point qui est la sagesse. Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. Il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Autrement dit, le sage a des richesses, a du luxe, on pourrait dire, mais le fou dépense tout ce qu'il gagne. Autre proverbe, proverbe 24, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc, la sagesse, tu en as besoin. Si tu veux construire quoi que ce soit, il faut de la sagesse, il faut de la compréhension avant d'investir dans quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe ? Autre proverbe très intéressant dans Proverbe 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Regardez bien la suite. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté, etc. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Et ce verset, je ne sais pas vous, mais moi, il m'a fait beaucoup rire. Regardez la façon de considérer les choses pour la fourmi. Considérez, regardez sa manière d'être sage. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas de responsable, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle sait, la fourmi ? Elle sait qu'à un moment donné, l'hiver arrive. Elle sait que l'hiver sera peut-être rude, sera peut-être long. Il n'y aura peut-être pas forcément de chauffage ou d'électricité, hein, ça vous rappelle quelque chose ? Mais elle sait que demain a de l'importance. Donc elle fait des réserves, elle fait des provisions. Elle rassemble sa nourriture au moment de la moisson, parce qu'elle sait que demain a de l'importance. Je vais aussi vous parler de la parabole des talents. La parabole des talents, c'est une mesure d'argent, comme vous le savez, et donc le maître a donné trois sacs. Hein, je fais un résumé, je ne vais pas le relire. Donc il va donner trois sacs à un serviteur, il va en donner deux autres à un deuxième serviteur et un seul à un troisième. Et quand il est revenu, quand il revient, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il voit qu'il y en a deux qui ont bien dépassé l'objectif que le maître leur avait donné comme objectif. Mais il y en a un qui est resté trop précautionneux, trop paresseux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a mis de côté, hein ? Il l'a enterré. Et pour celui qui a bien fait, donc pour celui qui a multiplié, qu'est-ce que le maître va lui dire ? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, on va pouvoir t'en confier de plus grandes. À l'inverse, le serviteur donc, qui a été paresseux ou qu'on pourrait considérer comme défaillant, il avait déjà peu. Et qu'est-ce qui se passe pour lui ? Ben, malgré qu'il n'ait déjà pas grand-chose, eh ben, on va même lui ôter ce qu'il a pour le donner à ceux qui ont fait multiplier, à ceux qui ont fait croître. Donc l'importance de la sagesse, l'importance d'être à l'écoute, d'obéir à ce que Dieu veut. Et donc on peut distinguer deux pensées qui se détachent quand on regarde un petit peu ces différents versets. Il y en a tellement d'autres, hein. Là aussi, je ne veux pas faire de redites, mais je crois qu'il y a plus de 2000 versets, hein. On en avait parlé sur la finance, sur tout ce qui est argent. Donc on voit à quel point c'est important pour Dieu d'être de bons gestionnaires pour son royaume et pour sa gloire. Et donc on a deux choses comme ça qui se détachent, qui sont assez intéressantes, qu'on pourrait, en parallèle avec notre vie d'aujourd'hui, soit on va, comme une majorité de gens, et c'est normal, hein, on va aller travailler pour gagner de l'argent, pour gagner notre salaire, soit on va finalement mettre l'argent à notre service, faire en sorte qu'on ne soit plus esclave, mais que ce soit ce qu'on va mettre de côté, ce dans quoi on va investir, qui va travailler pour nous. Amen. Et donc c'est ce qui se passe avec cette parabole des talents. Jésus dit aux serviteurs de mettre leur argent au travail, de faire fructifier indirectement ce qu'il leur a donné. Donc soit je dépense tout ce que j'ai gagné, et à la fin du mois, ben, il ne me reste plus rien, soit je décide d'investir sagement une petite partie avec laquelle Dieu va pouvoir multiplier, avec laquelle Dieu veut me voir fidèle dans ce qu'il m'a confié. Et on va voir donc comment on peut maximiser ce que nous avons aujourd'hui pour changer notre demain. Et du coup, ça va avoir forcément un impact dans nos choix et dans nos décisions pour le futur, comme je disais, pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent, pour nos familles, pour nos enfants, etc. Alors si on va dans le concret, si on avance un peu plus loin, quelques moyens, quelques outils pratiques. Provisionner, épargner par exemple 10% de ses ressources. Et je précise, et j'avais bien mis l'accent, après la dîme. Bien sûr, Olivier l'a rappelé il y a quelque temps, et ça c'est important, la Bible est claire là-dessus, l'importance de donner déjà les prémices de quoi? De tous tes revenus, de tout ce que tu as. Et ça c'est fondamental, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup parlé, dès que j'ai commencé à travailler, j'avais eu des enseignements là-dedans, je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a une formation qui est super sur le sujet de Kurt Bullman, sur le top chrétien, il y en a plein d'autres, hein. Mais il y a bien Richesse et Argent aussi, hein, un bouquin qui a été écrit sur le sujet, très intéressant de voir à quel point c'est important d'honorer Dieu avec ce qu'il nous a donné. Hein, et quand on regarde aujourd'hui déjà, quand on voit autour de nous, quand on voit sa situation, mais on ne peut que se réjouir et bénir les Seigneurs pour ce qu'il nous a donné. Donc l'importance vraiment, c'est le minimum, hein, syndical. Mais, et ça, il y a des petites règles, il y a des petites choses que tu peux faire de manière très pratique, très concrète. Dès que tu as les revenus, dès que tu touches ton salaire, dès que tu touches des loyers, dès que tu touches même, pourquoi pas, un héritage, premier réflexe, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai reçu? La première chose que tu peux faire simplement, donne ta part déjà au Seigneur. Minimum 10%. Et tu verras peut-être que le Seigneur va même te révéler de donner plus. Amen. Alléluia. Parce que tout vient de lui. Et c'est beau, je lui donne 10 et il me laisse 90% du reste pour pouvoir faire plein de projets, pour vivre, pour bénir ma famille, mes proches. Amen. Alléluia. Et on voit bien que, alors rien qu'en France, si vous regardez un petit peu quelques statistiques, le taux d'épargne moyen des Français, est-ce que vous savez à combien il est? C'est un des plus élevés au monde. Moi, j'ai été resté encore en 2010 aux alentours de 14-15, et je lisais hier 17,4% du revenu disponible brut. Incroyable. On est capable, en France, pour plein de raisons, hein, bonnes ou mauvaises, d'épargner, de mettre de côté, en moyenne, 17% de ce qu'on gagne. Alors, à plus forte raison de pouvoir donner et investir pour le royaume. Alors, c'est 10%. C'est 10%, hein, on a donné les 10% pour la dîme minimum, et puis ensuite, je vous ai parlé de ces 10% que je vais pouvoir provisionner, comme la fourmi, et pouvoir peut-être investir. Alors, dans quoi? Alors, je ne vais pas rentrer, bien sûr, parce que ce n'est pas le lieu, dans tout un tas de détails, de produits, de solutions, mais c'est donner quelques exemples. Ça peut être, par exemple, d'aider un frère ou une sœur à se lancer dans un projet. Voilà, pour lequel tu souhaites investir. Ça peut être sous forme de dons, ça peut être peut-être dans un projet immobilier que le Seigneur te met à cœur, pour un terrain, pour le cultiver, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est important, tu remets ça dans la prière et Seigneur, éclaire-moi. qu'est-ce que je peux faire avec cette provision? Dans quoi tu veux que j'investisse? Et donc, une fois que j'ai prié, ben, c'est important d'être sensible, d'être à l'écoute de ceux qui m'entourent. Le Seigneur va forcément te répondre et mettre les bonnes personnes autour de toi. Un frère, une sœur, un jeune qui a un projet dans lequel peut-être tu vas te dire, ben, tiens, là j'ai, ouais, je sens que c'est, je peux investir une partie de ces 10%. Ça ne veut pas dire que je vais mettre tous les 10% que j'ai mis de côté, que j'ai provisionné mois après mois, mais ça peut être une partie qui vont aller là-dedans. Une partie qui vont aller, pourquoi pas, pour la start-up, un nouveau projet pareil dont on m'a parlé et pour lequel tu es en confiance, le Seigneur t'a mis en paix. Ça peut être une autre partie pour les beaux projets que nous avons à Connect, que ce soit le camion douche, je remets une couche, hein, que ce soit pour le café, que ce soit pour tout un tas d'autres projets, ou tout simplement sur un compte d'épargne, en attendant peut-être que le Seigneur te parle pour ce que tu vas faire après. Et c'est intéressant quand on regarde la parabole des talents, puisque le serviteur paresseux, oublieux, ou comme on peut l'appeler, qu'est-ce qu'il a fait? Le maître va même lui reprocher que s'il l'avait mis où? À la banque. Il aurait pu au moins en tirer des intérêts. Donc épargne, oui, mettre de côté, oui, mais bien sûr, sans excès. Sans excès, puisque la parole dit aussi dans Proverbes, hein, on est toujours dans les Proverbes 11, versets 24 à 25, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et ça, je vous assure, les amis, s'il y a vraiment une clé là-dedans, moi, pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, le fait de donner, le fait d'être généreux, en fait, indirectement, tu le fais, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, ça devient naturel, et c'est plus un souci, c'est plus un problème, et au contraire, tu prends du plaisir, et tu comprends pourquoi le Seigneur a dit, il y a plus de plaisir même à donner qu'à recevoir. Bien sûr que c'est super d'avoir, bien sûr que c'est super de recevoir, mais donner, il y a vraiment une clé là-dedans. Et c'est, on le voit bien, inverse à ce qu'on voit dans le système du monde. Comme je disais tout à l'heure, où tout est tourné sur soi, où on cherche absolument à s'enrichir, à mettre de côté des fortunes. Et moi qui suis dans le métier, comme je vous disais, du patrimoine, je vois combien de situations où je trouve ça mais terrible de voir des gens qui se sont enrichis, qui ont travaillé toute leur vie, pour qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la succession, déjà les enfants des fois sont surpris, ils ne savaient pas que papa et maman avaient sacrifié toute leur vie, les vacances, tout un tas de choses qu'ils avaient, ils avaient quasiment pas vu grandir, et qu'ils avaient mis, c'est sûr, des montagnes de côté, et qu'à l'arrivée, à la succession, ben c'est l'État qui avait pris déjà une grosse partie, et on voit des fois même des discordes dans les familles, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait autant d'héritage, et qu'ils avaient vécu comme ça dans la petitesse, etc. Donc l'importance vraiment de donner, d'être généreux, parce qu'avec le royaume de Dieu, eh ben, si on donne de manière extravagante, le Seigneur fait des choses extravagantes aussi. Alléluia. Alors, petit témoignage aussi là, que j'ai pu vivre récemment. On va tous faire ses courses. Et justement, donc, alors que j'étais devant un supermarché, j'ai vu une personne donc, qui avait besoin de rien, qui était assise, qui c'est limite si elle mendiait. Et je me suis approché pour savoir si elle voulait justement que je lui apporte quelque chose. Et vous voyez, humainement, psychologiquement, il y a toujours l'arrière-pensée de se dire... Attends, mais je lui ai proposé ça ouvertement. Si elle me demande de ramener le magasin, déjà que ma femme m'a envoyé faire quelques courses, et en plus j'arrive en retard, alors là, ça ne va pas le faire du tout. Et donc j'y vais, j'ose, je lui demande. Et à chaque fois, il y a au moins deux, trois fois, ça m'est arrivé, la personne ne m'a pas demandé 3, 4, 10 choses. Une seule petite chose. Voilà, des fois une petite boîte d'haricots, des fois un fruit ou un légume. Et donc, bon, j'étais rassuré après. Non, je blague, mais vraiment, c'est pour vous dire, c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre tout ça en pratique et d'aller, et d'oser. Oser demander qu'est-ce que je peux faire. Oser aider les pauvres, ceux qui sont à notre porte. Autre principe aussi, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors ça, on l'a souvent entendu. Et en méditant là-dessus, ça m'a fait penser au choix de Jésus. Finalement, dès le départ, en prenant non pas un, deux, trois, mais 12 disciples. Je dis, tiens, c'est intéressant ça. Le Seigneur, il est Jésus, il est Dieu, il aurait pu se suffire à lui-même, et non, il va investir dans des personnes avec leurs dons, avec leurs talents, et donc il diversifie. La preuve, c'est qu'il nous a tous créés différents, Et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre ses 12 apôtres, hein, comme les 12 tribus d'Israël. Certains étaient pêcheurs de poissons, d'autres travaillaient comme percepteurs d'impôts ou agriculteurs. Et bien, chacun a pu participer à la glorieuse mission de Jésus. Et ça, je trouve ça extraordinaire. L'intérêt donc de diversifier, donc de pouvoir justement, ben, encore une fois, avec cette provision que tu vas mettre de côté, que le Seigneur va te révéler, comment je peux l'investir avec sagesse, et peut-être pas au même endroit, mais dans différentes choses que le Seigneur t'aura parlé dans ton cœur. La diversification, l'intérêt de diversifier, c'est aussi un des fondements quand on est dans le travail de la gestion de patrimoine. Et pareil, j'avais un petit peu cette image comme l'abeille qui butine un petit peu partout, de fleur en fleur. Et qu'est-ce que ça permet ? Au-delà du fait que quand on mange, on se délecte d'un délicieux miel toute fleur, dans lequel les miels ont butiné, et bien en fait, l'abeille, elle est allée sur plusieurs fleurs, à nouveau, une diversité de fleurs différentes. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Qu'est-ce que ça fait ? Parce que moi, je le vois bien dans mon jardin. Hein. J'avais quelques petits soucis, des fois, quand je n'ai pas tous les insectes ou les abeilles qui viennent comme ça butiner, notamment dans mes courgettes. Ben, mes courgettes, qu'est-ce qui se passe ? Elles ne portent pas de fruits. Elles ne portent pas de fruits. Elles finissent par pourrir. Donc, des fois, je suis moi-même obligé, si je n'ai pas assez d'abeilles ou d'insectes, de prendre une tige mâle pour la toucher avec la femelle et pour permettre qu'il y ait ce fruit. Donc, il y a besoin. Voilà. Et ben, c'est un petit peu ça. L'abeille, elle va aller de fleur en fleur, ce côté de diversifier, et c'est pas que pour l'abeille, c'est que ça va porter un fruit, ça va amener du fruit, ça va amener de la vie, finalement, dans toutes ces fleurs qui vont pouvoir à leur tour donner une belle fleur ou un bon fruit. Dernier principe par rapport à la sagesse, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir devenir quelque part riche rapidement. Alors je dis riche, hein, il faut que ça choque personne, il n'y a pas de mal à être riche, surtout si on s'est utilisé à bon escient pour la gloire et le royaume de Dieu. Et ça me rappelle un investissement que j'avais fait quand j'étais plus jeune et que je travaillais dans la banque. On m'avait parlé des varans, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc première chose, hein, déjà je ne savais pas ce que c'était. Et ça déjà quand on ne sait pas, mieux vaut ne pas y aller. Et c'était un copain qui m'avait dit, bah, tiens, si, regarde, j'ai fait pas mal d'intérêts avec ça, tu devrais essayer tout ça. Donc il me propose le placement, tout ça, j'y vais, je regarde, je commence, et puis c'est vrai que la première fois ça marche, la deuxième fois ça marche, la troisième fois aussi, puis vous avez le capital qui augmente. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand on est avare, quand on ne comprend pas dans quoi on investit, quand on veut aller trop vite pour s'enrichir? Eh bien on perd tout, voilà, on perd tout, et là, on s'en veut, on dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je n'ai pas fait appel à toi ? Pourquoi je n'ai pas demandé ta sagesse avant d'investir ? Et ça s'est passé comme ça à plusieurs reprises. Alors là, je donne cet investissement-là en particulier, mais pour d'autres choses aussi. Quand tu dois acheter ta future voiture, quand il s'agit d'investissement immobilier ou autre, est-ce que tu as pris le temps de remettre avec sagesse les choses à ton Père Céleste, qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout de ta vie et de ta situation. C'est pour ça qu'il est dit d'ailleurs dans Proverbe 13 au verset 11, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Il faut donc penser long terme. Et ça m'a donné l'image, en priant, de la tortue. Je réalisais que même la tortue, elle a pu rentrer dans l'arche de Noé. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est vraiment ça. Même si tu es aujourd'hui une tortue, même si ça prend du temps, même si tu ne comprends pas toujours les voies de Dieu, et tu ne sais pas, et tu es en questionnement en ce moment, voilà, est-ce que je dois changer de travail, est-ce que dans quoi je dois investir, etc. Prends le temps, laisse le temps au temps. Et c'est un petit peu justement l'effet boule de neige, petit à petit. Voilà, le Seigneur va te révéler des choses. Petit à petit, tu vas mettre de côté, tu vas pouvoir voir des projets aussi se développer. Donc, une petite formule qu'on pourrait presque mettre au point. Finalement, donc, l'argent, donc ce que je vais investir, plus la persévérance, plus le temps, vont finir par donner des richesses. Alors, on pourrait prendre un petit exemple chiffré. Si je vous disais, par exemple, si je vous donne 1 million d'euros tout de suite, et qu'à côté de ça, je vous dis, soit tu prends le million, soit un centime, qui va se multiplier tous les jours pendant 30 jours. Un centime qui double tous les jours pendant 30 jours. Un centime, donc c'est-à-dire que le deuxième jour, ça fait 2 centimes. Le troisième jour, ça fait 4. Ensuite, ça vous aide, hein, à on est sur les finances, hein, donc au moins ça aide à calculer, etc., etc. Et bien, à votre avis, c'est quoi le plus intéressant? Est-ce que je prends le million tout de suite? Ou est-ce que je prends plutôt un centime qui double tous les jours, pendant par contre 30 jours, hein, pas plus de 30 jours? Et bien, je me suis amusé à le faire à la calculette. C'est intéressant. Ben, avec un million, déjà on le sait, hein, si j'ai un million tout de suite, je risque de faire pas forcément bon investissement. Mais avec un centime qui double tous les jours, si je le laisse sagement de côté, au bout de 30 jours, j'aurai 5 368 709,12 €. Waouh ! D'où l'intérêt d'être fidèle et persévérant dans la durée. Et ça, c'est un grand principe, comme je disais tout à l'heure, qui illustre bien le fait que des fois, on veut tout vite, tout trop vite, tout de suite, et qu'on oublie que demain a de l'importance, de laisser le temps au temps. Voilà cette première partie que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'était le fait de pratiquer la reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est dit « Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Et choisir d'être reconnaissant, on en a parlé là aussi hein, dans quelques messages précédemment, c'est malgré toutes les circonstances et quelles que soient les situations difficiles qu'on peut traverser, « Seigneur, je choisis de continuer à te louer, je choisis de continuer à te bénir, à être reconnaissant pour ce que j'ai. » On a facilement le réflexe de râler, de se dire « purée, mais j'aimerais avoir plus. » Mais déjà, apprends déjà à te contenter, apprends déjà à remercier Dieu pour ce que tu as. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'inculquer dans la famille, avec les enfants, parce que sinon, ils ne s'en rendent pas compte et on peut très bien, voilà, très vite oublier déjà ce qu'on a eu, ce qu'on a reçu. Alléluia. Et c'est vrai, combien de fois j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu dans de nombreuses reprises dans ma vie, même dans les périodes où j'ai été dépourvu, même dans les périodes où je me suis retrouvé un petit peu en difficulté, notamment dans mon travail, et où je faisais appel à mon frangin, au frérot Olivier, où j'ai pu l'appeler pour dire « Écoute, mon frère, il me dit « Alors comment ça va ?» Ben, écoute, en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas forcément les bonnes affaires, ça rentre pas, j'aime pas ces périodes-là. Voilà, j'aime bien tout prévoir, tout organiser, etc. Et combien de fois Olivier m'a rappelé quelque chose d'essentiel, il m'a dit « Mais mon frère, regarde derrière toi, regarde déjà tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, et souviens-toi à chaque fois que tu as eu besoin de lui, chaque fois que tu as prié, est-ce qu'il n'a pas pourvu ? Est-ce qu'il n'a pas été fidèle ?» Et j'ai dit « Purée, c'est vrai, il a raison. Il a raison. » Et ça, ce n'est pas évident, parce que quand tout marche bien, quand dans nos finances, quand dans ce qu'on investit, ça se passe comme il faut, c'est super. Mais on n'aime pas, hein, on n'aime pas quand il y a des turbulences et que ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et peut-être que justement dans ces moments-là, le Seigneur va t'encourager à faire preuve de foi, de confiance, à revenir à lui. Et on a vraiment souvent on cite ce psaume, il est tellement beau, hein, « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en l'adorant combien l'Éternel est grand. » Et un deuxième exemple, et pour lequel j'aimerais vraiment honorer aussi mon papa ce matin, mon papa avec qui on a traversé, effectivement on a pu le dire des fois, une épreuve difficile dans la vie, puisque j'ai perdu ma mère quand j'avais 11 ans, et j'étais l'aîné, on est 4, et c'est vrai que ça a été des moments difficiles, c'est vraiment pas facile de perdre sa maman, mais là aussi, je veux bénir et honorer mon papa, parce que combien de fois il a été un modèle pour nous, dans ces moments-là difficiles, il s'est tourné vers le Seigneur, il a continué à le louer, à l'adorer, et il nous a transmis ça. Et ça, je me dis, c'est génial parce qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie, y compris dans nos finances. Voilà, donc mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, accroche-toi à lui et continue de le louer. Fais ce choix plutôt que de calculer. Hein, il y a un moment donné, il faut s'arrêter, parce que sinon on peut vite passer dans le burn-out. S'arrêter de calculer, s'arrêter de réfléchir en soi-même et dire « Seigneur, allez, stop, j'arrête de réfléchir trop, je te remets ce sujet, je te remets ces finances, je te remets ce problème qu'on rencontre en ce moment, et vraiment, je sais que tu vas agir. Je choisis de te louer et de t'adorer. L'humilité, 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ou encore ce beau proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et j'aimerais terminer voilà, avec ce petit passage, ce petit témoignage personnel que j'ai pu vivre dans mon travail en 2013, lorsque j'ai basculé donc de la banque à l'assurance, et où pour moi c'était pareil, très déstabilisant. Je voyais que j'arrivais vraiment à la fin d'une aventure, et c'était très très difficile pour moi psychologiquement, parce que jusqu'à présent je faisais que monter, et peut-être ça vous est déjà arrivé, vous avez de la réussite, puis à un moment donné ça s'arrête, ça stagne, on ne comprend pas pourquoi, on a beaucoup d'opposition, on se fait reprendre même par ses supérieurs, et c'était très très déstabilisant pour moi. Et bien là, pareil, j'ai dit, Seigneur, écoute, je sais que tu m'as donné des dons et des talents, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin vraiment de ton aide, j'ai besoin que tu m'aides. Et y avait donc un troisième poste à pourvoir, parce que moi j'avais un objectif, je m'étais dit, ouais, avant 30 ans, faut que tu sois directeur d'agence, faut que tu sois cadre, ça sera super, etc. Donc c'était beaucoup tourné sur le moi, et je ne savais pas ce que Dieu avait en réserve. Mais il m'a appris au travers de ça l'humilité. Il m'a appris à fléchir le genou. Et je peux vous dire que ce n'était pas sans mal. Et donc, il y avait ce poste à pourvoir, juste à côté de la maison. On était à l'époque dans l'Aveyron. C'était super. J'ai dit, bah, tiens, c'est chouette. C'est juste à côté. Je pourrais presque y aller à vélo, à pied. Je crois que même à un moment donné, il avait neigé. J'avais pu aller à l'agence en ski, pour vous dire. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, je prie pour ça. Et là, je me dis, allez, je vais me donner les moyens. Je suis Sam, quoi. Je suis un battant. On y va. Allez. Et je prie. En même temps, je me fais coacher, je me fais accompagner, je bosse sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et j'arrive à l'entretien. Et donc, je suis remonté comme un coucou, j'envoie, je me dis, purée, j'envoie du lourd. Mais malgré tout, à chaque fois, je vois de l'opposition. Je vois qu'en fait, les dés sont déjà joués, que le poste à pourvoir en fait, est déjà pris quelque part, que voilà, c'est très politique, on préfère mettre telle personne pour telle raison. Et là, sur le coup, très dur, d'un côté, mais de l'autre, je me souvenais cette prière. J'avais dit, Seigneur, un peu comme Paul, c'est la troisième fois que je prie, troisième fois que je postule pour un poste, et je voulais vraiment ce poste. Ben, si ce n'est pas ça, c'est que l'aventure s'arrête à autre chose pour moi. Et c'est dur, les amis, parce que quand tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, quand tu ne vois pas ce que le Seigneur en réserve pour toi, ben forcément, tu es pris de stress, tu sais que tu as un crédit sur le dos, tu as des enfants maintenant à nourrir, enfin voilà, la situation a évolué. Puis tu quittes une place, tu dis, Seigneur, du coup, est-ce que c'est sage, que c'est pas sage? Et pourtant, au fond de moi, il y a quelque chose qui bouillait très fort et qui me disait, non, c'est le moment, c'est le temps pour toi, tu as fait ta saison. Hein, quand tu es rentré dans la banque, on t'avait dit, est-ce que tu es prêt à te marier avec la banque? J'avais dit oui pour faire plaisir. Mais là, voilà, on arrivait à la fin de quelque chose et c'était le temps de passer à autre chose. Et je bénis le Seigneur parce que, ben oui, ça a été, comme je dis, ça n'a pas été sans mal. Il y a eu des larmes, mais le Seigneur a pourvu. Et sans que je le sache, il m'a permis de basculer dans un autre métier dans lequel j'ai pu m'épanouir, dans lequel, en l'espace de 6 mois, j'avais reçu plus de reconnaissance, plus d'encouragement que mes 10 ans passés dans la banque précédente. C'est ça, notre Dieu. Et ça va encore plus loin. Le Seigneur m'a permis de travailler encore moins qu'avant et de multiplier les ressources, parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Amen. Amen. Alors peut-être que, et plusieurs aussi, oui, j'avais noté aussi, plusieurs aussi d'entre nous sont ici et ont fait ces choix. Il y a quelque temps, j'avais pu en discuter avec des frères et des sœurs, voilà, de tout quitter, de laisser leur poste, leur métier, parce qu'il y avait autre chose qui les attendait. Et pareil, ça peut être déstabilisant quand on entend ça, on dit, mais quand même, tu as un crédit, tu as des enfants, il faut gagner sa vie pour se nourrir. Et ben non. Si justement tu te mets à l'écoute de Dieu, s'il te donne cette sagesse, sois humble, sois dans cette humilité, cette soumission, et il a de très belles choses en réserve pour toi. Voilà, donc j'aimerais terminer par cette ouverture. Peut-être que ce matin, toi aussi, tu te poses des questions sur ton avenir, sur ta situation, sur le poste que tu occupes, ou sur des investissements que tu t'apprêtes à réaliser, et vraiment t'encourager à, à être vraiment à l'écoute de Dieu, lui demander vraiment la sagesse. Comme dit la parole, celui qui demande la sagesse, Dieu lui donnera la sagesse. Peut-être que le Seigneur va t'encourager à diversifier, à voir comment tu peux provisionner ou ce que tu as provisionné, comment tu peux l'investir pour son royaume et pour sa gloire. Et si tu fais preuve de patience et de temps, le Seigneur va se révéler à toi au bon moment, au bon timing. Il n'est pas trop tard, mon frère ou ma sœur. Alors que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Dieu t'a donné des compétences, mon frère et ma sœur. Dieu t'a donné des dons. Et soit tu les connais, soit tu ne les connais pas, il va te les révéler. Mais tu peux vraiment prier pour ça et te remettre à lui pour savoir si tu es aujourd'hui au bon endroit ou pas. Mais là où tu seras, à la bonne place, Dieu va t'aider à multiplier pour sa gloire. Tu vas porter beaucoup de fruits, comme le passage dans Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » ça c'est vraiment un de mes versets préférés, « vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen.
Merci beaucoup. Je trouve que c'est très enrichissant de voir, c'est vraiment la suite